Théâtre,
bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Transversar. Aujourd'hui, nous parlerons cinéma. À l'occasion de la rétrospective Alfred Hitchcock, qui se tient à l'Institut Lumière du 4 janvier au 3 avril, nous avons rencontré Fabrice Calzettoni. Ce cinéphile, qui enseigne le cinéma et qui est en charge des conférences à l'Institut Lumière, nous parlera de son exploration de l'œuvre du géant Hitchcock.
En une seconde partie, nous avons voulu savoir à quoi ressemblait votre vie cinématographique. Votre dernier film vu, votre film ou acteur favori, les films que vous aimez sans oser l'avouer, tout y passe dans un micro-trottoir réjouissant. Ensuite, nous conclurons bien évidemment avec notre chronique Regard sûr. C'est cette fois-ci Jennifer Tio qui prend le micro. Jennifer Tio, dont l'exposition photo Chine en mutation sera inaugurée le 8 février en Descartes, et elle vous parlera aujourd'hui de deux centres d'art contemporain chinois. Mais d'abord, suivez-nous dans les bureaux de l'Institut Lumière où Fabrice Calzettoni nous entretient du génie cinématographique d'Alfred Hitchcock. Fabrice Calzettoni, bonjour. Donc vous enseignez le cinéma, vous êtes aussi responsable du musée de l'Institut Lumière et aussi des conférences qui sont données dans cet institut. Et d'ailleurs, à ce titre, vous allez donner une conférence intitulée Le langage d'Hitchcock, le jeudi 24 février à 19h30. Et c'est précisément d'Hitchcock dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, si on prend presque ce qui est devenu un cliché sur Hitchcock, c'est la phrase que Romer et Chabrol ont eue à son propos, de dire que c'était le plus grand inventeur de forme. Et en effet, si on considère la carrière d'Hitchcock sans doute dans ses grands traits, on s'aperçoit qu'il a commencé à faire du noir et blanc muet en Angleterre et fini en faisant du couleur, parlant évidemment, aux États-Unis. Et puis autre chose, on s'aperçoit que c'est souvent le cinéaste des défis techniques, avec par exemple un film comme La Corde dont on dit qu'il a été tourné en un seul plan. Et donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette facilité d'Hitchcock à intégrer les révolutions techniques et même parfois à les provoquer, ces révolutions?
Je pense qu'une des réponses vient de l'attention permanente qu'il a portée à son rapport avec le public. C'est-à-dire qu'il conçoit la mise en scène pas en imposant une façon de penser ou en étant un pédagogue, il conçoit la mise en scène avec où une partie de la mise en scène est conçue par le public, est faite par le public, c'est-à-dire il connaît les attentes du public, et à partir de ce moment-là, il va concevoir un travail qui mettra sans arrêt le public en interaction avec ses personnages ou avec sa mise en scène. Quand un cinéaste comme Howard Hawks veut faire passer un message, par exemple, bon, il va employer, on peut tout à fait employer le texte, mais ça n'oblige pas à faire des mouvements de caméra particuliers, etc. Mmh. Si on veut faire participer le spectateur, pardon, sans qu'il s'en aperçoive, en jouant sur ses pulsions, sur ses attentes, sur sa curiosité naturelle, il va falloir justement inventer un langage où cette participation-là du spectateur fonctionne d'elle-même sans que le spectateur s'en aperçoive. Donc du coup, ça va obliger Hitchcock à penser le cinéma justement comme une forme, plus comme une forme, et non pas comme un message à faire passer, etc. En ça, à part ce qui a été une période assez traumatique pour lui, puisqu'il a fui l'Angleterre, et évidemment tout le conflit lié autour du fascisme, où on aura quelques films comme Les Enchaînés, ou le Rideau déchiré, par exemple, avec le bloc communiste, où là on aura les rares films où il va imposer un peu une pensée politique. La plupart de ses films, si on regarde le scénario vraiment de base, ça tient sur un ticket de métro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas une volonté d'un discours social, politique, etc. Donc tout n'est que forme à partir de ce moment-là, tout va être construit par la forme.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a presque un paradoxe, puisque finalement souvent on dit Hitchcock maître du suspense, alors qu'il apparaît que les intrigues sont souvent répétitives, avec par exemple l'intrigue de l'innocent pris pour ce qu'il n'est pas et mis en danger à cause de cette erreur. Et c'est précisément aussi le cinéaste qui disait, et c'est presque une citation, qu'il s'intéressait moins au sujet qu'il traite qu'à la manière de le traiter. Et du coup, alors est-ce que cette manière de le traiter, ça serait d'où viendrait le suspense? Ça serait précisément des plans, du visuel, d'un art, du montage tout à fait particulier et propre à Hitchcock?
Alors, ce parti pris-là, c'est-à-dire de concevoir un film où on aura une partie de la mise en scène faite par le spectateur, en répondant à ses attentes, ça va naturellement pour lui l'obliger à imaginer plein de techniques différentes. Et donc, du coup, le montage va être un élément essentiel de la construction narrative, de la construction filmique, parce qu'il fait partie de ceux qui vont utiliser le montage à des fins manipulatrices, c'est-à-dire où il y a plus de choses qui se passent finalement entre les plans que dans le plan lui-même. C'est la succession des plans qui va enclencher chez le spectateur telle ou telle réaction, telle ou telle émotion. L'exemple le plus significatif, c'est son invention de plan en trois parties dans la fenêtre sur cour, quand il veut manipuler le spectateur pour, alors qu'il n'aurait qu'une preuve, le persuader que le voisin d'en face est un tueur. Donc il faut absolument qu'on s'identifie au personnage principal qui est joué par James Stewart. Il faut absolument qu'on soit comme lui convaincu que le personnage en face est un suspect sensible. Donc en trois plans, il va progressivement, alors il faut que cette technique-là soit répétitive, il faut la placer plusieurs fois dans le film, mais elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une caméra qui filme le personnage en train de regarder, puis la caméra qui se met en regard subjectif, puis après on revient en position où on revoit de nouveau le personnage en train de regarder, seulement là on voit sa réaction. Et ces trois plans répétés plusieurs fois dans le film opèrent, sans que le spectateur s'en aperçoive, un phénomène d'identification où, comme le personnage, on va se mettre à soupçonner. Et ce qui est évidemment passionnant avec Hitchcock, c'est qu'il opère cette technique parce qu'il sait d'avance que l'envie du spectateur sera que ce personnage en face soit coupable. Il sait que le spectateur a envie de ça. Le spectateur veut un film policier. Il n'a pas envie que le personnage en face soit innocent. Ça ne l'intéresse pas. Et là, il va jouer sur les pulsions morbides du spectateur. Il y a plein de fenêtres dans Fenêtre sur cour, mais il sait très bien que ce qui va intéresser le spectateur, c'est l'homme qui a découpé sa femme en morceaux. On s'en fout de la chanteuse, de celle qui va se suicider parce qu'elle est toute seule. Et il va jouer avec ça. Donc, en combinant les deux, il parvient effectivement à construire tout un film à partir de, effectivement, pas grand-chose. On a, dans Fenêtre sur cour, rien d'autre que quelqu'un qui regarde chez son voisin.
Comme s'il poussait à l'extrême, en fait, finalement, la technique de Kuleshov avec le secret du montage. Mm-hmm. Et d'ailleurs, oui, sur cette méthode de travail, donc avec ces plans souvent très courts et dont la succession est très précise, c'est millimétré, vraiment comme une sorte de bombe à retardement, le film d'Hitchcock, où tout instrument à sa place. Est-ce qu'on pourrait, un instant, juste revenir sur la méthode de travail d'Hitchcock avec ses storyboards très précis, qui font d'Hitchcock visiblement une sorte d'exception quand même dans le monde des réalisateurs, avec ce goût pour la machine étant entièrement planifiée d'avance, avant même le tournage.
Vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que Hitchcock ne laissait pas de place à ce qu'on appelle l'improvisation. Il était un des rares effectivement à dessiner ou faire dessiner certaines séquences, pas tout, celles où il voulait justement avoir une précision de mise en scène absolument totale, aussi bien dans la durée du plan, donc ça c'est important, que dans la position de la caméra. Parce que ce que Hitchcock va contrôler avant tout sur le tournage, et pour ça il était intraitable. À ce titre-là, il n'y avait quasiment pas d'opération de montage à faire, c'est-à-dire qu'il était comme John Ford, c'est-à-dire que Ford, lui aussi, d'une certaine manière, dessinait les plans, composait des tableaux, ce qui fait que l'opération de montage était quasi nulle, c'est-à-dire que quasi nulle dans le sens où c'est pas Hitchcock qui faisait le montage, mais où il y avait très peu de possibilités de montage différents, c'est-à-dire que tout était fait à l'avance, entre le moteur et le coupé. Il n'y avait pas grand-chose à acheter ou à choisir. Tous les plans se ressemblaient et donc il suffisait de les choisir après, de les remettre les uns après les autres. C'était conçu à l'avance par Hitchcock. Donc en ça, ça plus dessiné, ça fait qu'au moment du tournage, il y avait un contrôle absolument total. Et donc Hitchcock accordait une importance tout à fait particulière à justement ce travail de combinaison entre la durée du plan et la position de la caméra. Combien de temps filme-t-on la séquence? À quelle distance se met-on du personnage? Les choses ne sont pas les mêmes si le plan dure plus longtemps ou moins longtemps. On crée une impatience ou on crée justement un effet de surprise parce qu'on est dans le plan et puis d'un seul coup on passe à autre chose. Ou alors on va créer une attente et on n'obtient pas le même résultat si on filme un personnage de loin ou de près. Donc c'est cette combinaison très précise que Hitchcock va essayer de travailler avant. Pour qu'une fois qu'on est sur le tournage, on n'ait pas de possibilité de changer ça. Après, la deuxième grosse partie de son travail va se situer avec les acteurs. Il essayait, en tout cas, ça ne marchait pas avec tout le monde, parce qu'il s'affrontait évidemment à certaines personnalités. C'est pour ça qu'il a sa famille. qu'il choisissait par exemple les actrices qui allaient jouer dans ses films, ou qu'il aimait bien reprendre les mêmes acteurs avec qui il s'entendait bien, parce qu'il essayait en tout cas, dès le départ, de leur faire comprendre qu'ils étaient une matière vide dans lesquelles on allait, dans lequel Hitchcock allait complètement placer les pièces de son puzzle et fabriquer le personnage. Et il insistait bien là-dessus, en disant que son personnage allait vivre quelque chose auquel il était, pour lequel il n'était pas prévu d'avance, c'est-à-dire que les personnages d'Hitchcock ne vont pas accomplir une quête, ils sont embarqués malgré eux dans une histoire dans laquelle ils n'auraient pas dû être là au bon moment, donc ils vont vivre quelque chose qui n'était pas attendu ou qui n'est pas voulu par le personnage. Donc à partir de ce moment-là, il faut que l'acteur accepte de n'être rien et qu'on remplisse cet acteur de tout ce que Hitchcock, de toutes les obsessions d'Hitchcock, par exemple. Et ça, James Stewart était particulièrement éponge pour ça, c'est-à-dire que toute sa parano, toute sa mythomanie, tout ce qui est la partie vraiment sur Frat, c'est vraiment le film le plus exemplaire à ce niveau-là. Les acteurs devaient être des éponges qui justement absorbent les obsessions d'Hitchcock pour les retranscrire à l'écran. Donc ces deux, son travail au moment du tournage était dans une première partie sur le contrôle total du plan. Et en même temps, ce gros travail qu'il avait avec certains de ses acteurs.
Et du coup, ce contrôle précisément total du plan permet souvent à Hitchcock de dire par l'image ce que beaucoup d'autres cinéastes auraient dit par une ligne de dialogue. Par exemple, si on reste avec James Stewart mais qu'on prend Fenêtre sur cour, le premier plan, on a la cour, ensuite on a le plâtre de James Stewart, on remonte, on voit son visage, puis un appareil photo cassé, des pellicules, une pile de magazines et des photos de voitures renversées. Donc, tout est dit, on comprend pourquoi elle s'est cassée la jambe, alors que dans beaucoup de films, on aurait choisi la facilité et une ligne de dialogue aurait servi à expliciter vraiment, alors que là, tout passe par l'image et précisément, le spectateur doit décoder cette image.
Alors, effectivement, là aussi, c'est un peu comme les storyboards, c'était travailler sur certaines séquences, c'est-à-dire que Hitchcock, exactement comme vous venez de le dire, pensait que pour exprimer certaines choses, il n'y avait pas besoin de dialogue. Donc, pour ce qui est de Fenêtre sur cour, c'est vrai qu'on a un exemple complètement significatif de toute une série d'informations qui peuvent passer uniquement par l'image. Ça, Hitchcock en était bien conscient. Ça ne l'empêchait pas, parce qu'il avait cette tradition du récit qui devait s'interrompre de temps en temps. Il prenait le temps de faire ce qu'on appelle ces longs tunnels de dialogue. Et dans ces films, on a, par exemple, dans Fenêtre sur cour, pour personnaliser James Stewart, puisqu'on prend cet exemple, on a effectivement cette série de plans où on va découvrir qui il est, etc. Mais ça va être très très important d'avoir aussi ces longs moments de dialogue avec Grace Kelly, avec le personnage de Lisa Frémont. Et on a, donc dans la séquence du repas, à peu près 10 à 15 minutes de dialogue ininterrompu, où là, le dialogue, il n'est pas là pour remplacer ce que l'image pourrait montrer. C'est important qu'ils discutent, c'est important qu'on les connaisse mieux, c'est important qu'on découvre les obsessions du personnage de Jeffries, sa misogynie, refoulée, sa peur de s'engager, d'être, etc., sa liberté qu'il veut préserver, elle, les efforts qu'elle fait pour se mettre à son niveau alors que c'est une femme du monde et que lui c'est un aventurier. Donc tout ça passe par ces rapports entre les personnages. Donc c'est un cinéaste qui, là je prenais John Ford tout à l'heure, John Ford lui travaillait par exemple avec John Wayne sur les dialogues en se disant comment peut-on dire les choses avec le moins de mots possible pour que le spectateur les comprenne. Donc les dialogues étaient réduits au minimum. C'est pas du tout le cas d'Hitchcock. Hitchcock, effectivement, se garde des vrais moments de cinéma où tout passe par l'image, mais il y a beaucoup de films, il y a par exemple dans la scène de la mort aux trousses du train où il y a le repas, et là c'est pareil, on a 10-15 minutes où les personnages discutent ensemble. Donc c'est vraiment, chez Hitchcock, c'était important de conserver ces moments-là et de les alterner, en fait, de savoir les combiner.
Et ben alors justement, puisqu'on parlait des instants parlantes, parlons d'une instance silencieuse, ça serait le paysage, parce que souvent on n'en parle pas, ou moins, ou dans des cas spécifiques, mais Hitchcock, on s'aperçoit en regardant ses films que c'est en fait un immense paysagiste presque, avec, vous parliez de La mort aux trousses, donc avec le paysage bien connu, mais même dans Vertigo, il y a des paysages par la fenêtre, il y a le paysage du pont, de la forêt de Séquoia. C'est très étonnant, cet amour presque d'Hitchcock pour le paysage qui joue souvent un rôle particulièrement important. Même si muet.
Bien sûr, Hitchcock est un plasticien de toute manière. Il fait partie des metteurs en scène qui compose le cadre. Et là, on rejoint déjà des choses qu'on vient de dire, notamment la méthode du storyboard. Voilà, évidemment, la couleur, hein, le contrôle de la couleur. Il est un de ceux qui a fait s'exprimer la couleur, comme le noir et blanc s'est exprimé à l'époque de l'expressionnisme allemand. La couleur a réellement une importance. Prends l'exemple de Pas de printemps pour Marnie, où il n'y a que du jaune et du vert, hein, et où le rouge apparaît quelques moments dans le film. Donc il y a une expressivité de la couleur. Donc à partir du moment où il y a une expressivité de la couleur, à partir du moment où il faut contrôler le plan, ça vient de fait, le fait que évidemment on va accorder de l'importance au paysage. Sachant que l'une des bases du récit hitchcockien, c'est un personnage justement qui ne s'y attendait pas et qui va être embarqué dans quelque chose de complètement inattendu, qu'il va devoir se surpasser lui-même pour affronter toutes ses épreuves, il est normal que ce personnage évolue dans un paysage qui va avoir forcément... il va y avoir un relationnel entre le paysage et le personnage principal, parce que ça va agir sur son comportement, sur évidemment tout ce qui va se passer dans le film. Donc, pour toutes ces raisons et par goût personnel, c'est un réel plasticien. Et puis, c'est en même temps la possibilité de s'exprimer. Donc, je prends l'exemple des oiseaux où Mélanie, jouée par Tippi Hedren, va chercher l'enfant à l'école. Donc, on a un premier plan où l'Aston Martin arrive dans un paysage magnifique, d'une quiétude absolument totale, où on voit l'école, qu'il fait beau, c'est la campagne, et quand on prend la fin de la séquence, c'est-à-dire qu'on est à peu près 2 minutes 30, 3 minutes plus tard, l'Aston Martin a disparu, elle est restée vers l'école, mais on voit les enfants sortir avec le nuage d'oiseaux, et sur ce même plan, on a le rêve et le cauchemar, c'est-à-dire que, le paysage là a été expressif. Donc il y a effectivement là aussi un gros travail d'Hitchcock sur l'environnement. C'est exactement ce qui se passe dans Psychose. Il est un des rares à avoir fait dans l'histoire du cinéma où on part sur un film policier et on dévie dans un film d'épouvante, puisque si on ne connaît pas l'histoire de Psychose, on part sur une intrigue policière. Et puis elle conduit dans la nuit et le paysage là d'un seul coup devient noir, il n'y a plus que la pluie. Et seul apparaît l'aventure d'un motel, et c'est ce qui va faire changer de direction le personnage, et ce qui va le conduire à sa perte.
Changer de direction le film.
Voilà, qui fait en même temps changer de direction le film. Et là aussi, c'est le paysage qui l'a contraint, et la plasticité du paysage, puisque le spectateur ne voit rien non plus. Donc l'angoisse vient aussi de là. Il y a plein d'exemples comme ça, où il joue énormément sur le paysage.
Bien sûr, on n'en ferait jamais le tour. Mm-hmm. Mais du coup, si, puisqu'on a un peu parlé de ce travail... sur l'image d'Hitchcock, est-ce que vous penseriez à d'éventuels successeurs, ou du moins à des héritiers de ce travail, de ces innovations, de ces idées visuelles hitchcockiennes ?
Oui, il y a la filiation directe, c'est-à-dire ceux qui ont basé une partie de leur cinéma, voire la totalité d'un film, sur les références à Hitchcock. C'est Brian De Palma, par exemple. Lui, il s'est carrément revendiqué dans certains de ses films. Il n'a même pas été loin de faire des remakes, hein. Effectivement, des gens comme Quentin Tarantino, par exemple, mais même les metteurs en scène un peu décalés comme Robert Rodriguez ou Zack Snyder sont des cinéastes qui vont jouer sur ce second degré avec justement le côté morbide du spectateur. Si Pulp Fiction a eu tant de succès, alors évidemment, on est loin d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que faisait Hitchcock, mais si Pulp Fiction a eu tant de succès, c'est parce que Quentin Tarantino savait qu'il pouvait donner un second degré à la violence à cette époque-là, par rapport aux spectateurs de cette époque-là, et que ce sera accepté à ce moment-là. Ça n'aurait pas été pris à ce 20e degré, ça n'aurait pas fait le succès du film, si justement il n'avait pas connu, comme le faisait Hitchcock, il n'avait pas eu une connaissance totale, à ce moment-là, des attentes de quel spectateur existe en 1992, qui n'est plus le même que celui des années 50 ou 60 ou 70, etc. Donc après, Hitchcock de toute façon influence tous les cinéastes, on va dire, de genre. Pas un cinéaste de film fantastique, on va dire, qui n'a pas appris quelque chose avec Alfred Hitchcock. Dario Argento a basé son succès en commençant là où s'était arrêté Hitchcock, c'est-à-dire en prenant les mêmes personnages qu'Hitchcock, les mêmes histoires, la même manière de faire du cinéma. Mais là où Hitchcock s'arrête, Dario Argento commence.
Merci beaucoup, Fabrice Calzettoni. Donc on rappelle votre conférence le 24 février à l'Institut Lumière, dans le cadre du cycle Hitchcock qui lui est consacré ici.
Merci à vous.
Nous remercions encore Fabrice Calzettoni de nous avoir reçus et nous vous rappelons que la rétrospective se tient du 4 janvier au 3 avril. Pendant cette période, de nombreuses conférences et autres événements culturels vous seront proposés. Donc si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'œuvre de ce maître du cinéma, foncez. À présent, c'est à vous que nous donnons la parole. On écoute le micro-trottoir.
Est-ce que vous pourriez me dire quel est le dernier film que vous avez vu ?
Faites le mur de Banksy.
Anzoria.
Les mystères de Lisbonne.
Les mystères de Lisbonne.
On a vu Nosferatu avec Magazine Nupo.
We are four lions.
Pour quelle radio ?
Transistor, la web radio de l'ONS.
Ah, je connais pas.
C'est pas grave.
Graines de violence.
J'ai vu le frelon vert, mais il est pas terrible.
The Social Network.
Le dernier film que j'ai vu.
C'est Somewhere.
J'ai vu Our Brother ce week-end.
Le dernier Harry Potter.
Au-delà.
Women are heroes.
Là-haut.
Non, pas là-haut.
Au-delà.
Ben moi, j'ai vu le dernier Sofia Coppola, mais non, j'ai une hésitation sur le titre, si c'est Somewhere ou Nowhere.
Alors, le dernier film au cinéma, c'était Nowhere Boy.
Le dernier, c'était Le Dernier des Templiers, et je regrette amèrement.
Octubre, un film péruvien.
Je crois que c'était Potiche.
Better of Dead.
Le premier court-métrage de Sofia Coppola.
Leak de Star.
Particulièrement conceptuel.
Médiavision. 01 47 20 00 01.
Un acteur ou une actrice que vous aimez particulièrement ?
Non, c'est secret.
Bah, Johnny Depp.
Je suis à jouer dans Green Zone.
Matt Damon.
John Gavin.
Kate Blanchett, j'adore.
Romain Duris.
John Gavin, c'est l'homme le plus beau du monde, quoi. Bon, maintenant, il est vieux, il est républicain et tout ça. Cary Grant.
Sean Penn.
Moi, j'aime beaucoup Gérard Philippe.
Il est mort.
Audrey Byrne.
Bon, Elizabeth Taylor, évidemment.
Trintignant.
Clint Eastwood.
Daniel Darieux aussi.
Clint Eastwood.
Penelope Cruz.
Clint Eastwood, c'est bien.
Et c'est pourquoi ? C'est une enquête ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour la radio de l'ONS Transistor.
D'accord. C'est gentil de préciser.
Ah, Kate Blanchett.
Robert De Niro.
Bon, Nicole Kidman.
Un film que t'aimes beaucoup, mais dont tu as honte.
Un dessin animé, ça marche ou pas ?
Ça marche complètement.
J'aime bien Kung Fu Panda. Voilà. Je l'ai vu 4 fois.
Bon, je sais pas s'il y a de quoi avoir honte, si, peut-être un peu.
Le Lagon Bleu. Et moi, coup de foudre en Notting Hill.
Oh, je le connais aussi. Par cœur.
Les Visiteurs.
Ah oui, les,
non. Les Visiteurs 2.
Ça, c'est moins avouable. Papy fait de la résistance.
Ah oui, ça, c'est pas mal aussi.
Moi, j'avoue, ça.
Que j'aime beaucoup et dont j'ai honte.
Non, surtout pas. Une quoi? Question bête comme ça, on peut pas y répondre. Non, c'est pas possible.
Autant On emporte le vent, c'est assez cucu et j'adore. Hein.
Ça, c'est la honte, oui.
Ou Sissi. Ah, Sissi, ouais, impératrice, c'est complètement tarte, mais j'adore.
On me séquestre pour que je réponde. Non. C'est quoi cette méthode?
Ah, oh, mais...
Je peux t'arrêter une minute? C'est simplement pour que tu me dises le titre de ton film préféré.
Bagdad Café.
The Last Day the Earth Still Stood.
De but en blanc.
On va dire... Bon, dernière rencontre avec Joe Black.
Little Miss Sunshine. Les Chevaux de Feu, Parajanov ou certains Tarkovsky ou Fellini.
Fight Club.
J'ai bien aimé A Serious Man l'an dernier.
Oui, la trilogie des Seigneurs des Anneaux.
Je sais pas... Gladiator ? Non, je sais pas.
Titanic.
Gladiator.
Un film préféré ? Hein ? C'est vache, ça.
J'irai parler avec elle.
Sentimentalement, c'est Nous ne sommes tant aimés.
La vie des autres.
Mon film préféré ?
Je sais pas.
C'est Arizona Dream.
Jeu d'enfant.
Dog Day Afternoon, qui est aussi un autre de mes films préférés.
Some Like It Hot.
Le Seigneur des Anneaux, le premier, La Communauté de l'Anneau.
The Hour.
Stevie Hudson avec Gary Cooper, que j'ai adoré.
Le Grand Bleu.
Carnet de Voyage.
Usual Suspect.
C'est Scoop.
Je peux te demander le titre de ton film préféré, s'il te plaît ?
Non. Les Dames du Bois de Boulogne, de Bresson.
Le Dictateur de Charlie Chaplin.
Celui que j'ai vu le plus de fois, mais c'est pas mon film inoubliable, mais c'est Le Roi Lion sans conteste.
Peut-être Mulholland Drive.
Certains l'aiment chaud.
Soleil Vert, allez.
Forrest Gump.
Ma vie devient.
Road Trip, ouais, j'adore Road Trip.
Mais j'hésite avec American Pie aussi.
La Haine.
The Big Lebowski.
The Big Lebowski.
Mon film préféré. On est dur avec les gens.
Merci à tous pour votre participation et merci de nous avoir parlé si nombreux et de nous avoir confié tant de secrets cinématographiques.
Et de nous avoir fait rire.
Non, ça c'est méchant. Laissons maintenant la parole à Jennifer Thio qui vous parle de ces lieux d'art contemporain nommés parcs créatifs qui se multiplient aux périphéries des grandes villes chinoises. Et surtout, n'oubliez pas que Jennifer Thio est une hôte de marque car dès le 8 février prochain, Jennifer expose ses photographies dans le Forum des Cartes lors d'une exposition intitulée « Chine en mutation ».
Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un vase Ming ou d'une sculpture bouddhiste, mais de deux lieux à ne pas manquer en Chine si l'on aime un tant soit peu l'art contemporain. Tout d'abord le centre 798 à Pékin, Titioba en chinois, et la zone de Moganshanlu ou M50 à Shanghai. On dit que 798 était le nom codé d'une usine de fabrication de pièces détachées pour radio construite dans les années 50. Ou peut-être était-ce une ancienne usine militaire désaffectée, désignée par un numéro plutôt que par un nom, pour ne pas attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, au début des années 2000, les lieux sont investis par de jeunes artistes et créateurs pour y installer ateliers, galeries, mais aussi studios, agences de pub, bars, etc. Dans la lignée de leurs aînés, dans ce que l'on appelait au début des années 90 l'East Village à Pékin, en référence à l'East Village de Manhattan, une communauté d'artistes d'avant-garde installée dans un quartier peu cher réservé aux migrants. Mais seulement un an après la création de cette communauté secrète, la police interdit le groupe. Il faut dire que l'artiste Ma Liuming avait fait une performance dans laquelle il courait nu, ce qui n'a pas vraiment plu aux autorités. En 2001, le Texan Robert Bernell est le premier étranger à s'installer dans l'ancienne usine 798. Puis le bouche-à-oreille fait son travail, et les artistes et créateurs s'implantent dans ces grandes usines désaffectées, proches du style Bauhaus, attirés par l'esthétique impressionnante de ces tubes géants et cheminées rouillées, parfaites illustrations du chic post-industriel. Ils rénovent les lieux, mais ne touchent pas au slogan maoïste encore présent sur les arches de l'usine, qui contraste de façon ironique avec le style pop, sorte de jeu graphique et décalé sur l'iconographie des années Mao, de la révolution culturelle. Ou le style pandipanda, animé par ce que certains commentateurs ont appelé les gesticulations colorées d'une contemporanéité exubérante. En 2002, l'artiste Huang Zhui et le photographe des Rutong Su Yong créent la 798 Space Gallery de 1200 m² au centre de l'usine. Et en 2003, la première biennale d'art contemporain de Pékin a lieu dans le centre. Aujourd'hui, il est toujours surréaliste de déambuler entre les sculptures de dragons flashy, les pneus géants dans lesquels on peut s'asseoir, et d'observer de jeunes chinois en total look gothique ou skater réaliser de mini-performances de musique ou de danse entre les galeries. Le parc créatif de Moganshanlu à Shanghai est quant à lui peut-être un peu moins fréquenté de la jeunesse chinoise que le centre de Pékin. Toutefois, il faut prendre le temps de visiter ce centre d'art au bord de la rivière Suzhou, lui aussi construit dans les années 90, sur les décombres d'une ancienne usine de textile cette fois. Lorsque le M50 devient officiellement un parc industriel créatif en 2002, l'espace compte alors plus de 100 galeries et ateliers d'artistes, dont les deux plus fameuses, Shangart et Bizart, jouissent aujourd'hui d'une certaine renommée. Après avoir traversé une des seules rues couvertes de graffitis de Shanghai, on entre dans les dédales de l'ancienne usine. Et si l'on est chanceux, on peut observer un artiste au travail. J'ai eu l'honneur de connaître l'un d'eux, qui s'appelle Du Saitin, dont les portraits à l'huile, représentant de manière crue et frontale des travailleurs ou des vagabonds dans le style des photographies de Richard Avedon, m'ont immédiatement ému. Je sais aujourd'hui que cet artiste a dû quitter Moganshanlu pour s'installer dans un petit atelier à Nankin, car les loyers ont énormément augmenté dans le M50, qui n'a plus rien à voir avec un joyeux squad de jeunes artistes, mais se rapproche davantage d'un Soho ou du 104 à Paris. C'est à Du Saitin et à son talent, qui j'espère continuera à s'exprimer, que j'aimerais dédier cette chronique.
Merci à Jennifer pour cette chronique et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. La séparation sera brève puisqu'on se retrouve après-demain, soit vendredi 4 février pendant le direct de Transistor, qui aura lieu entre 14h et 16h. Parmi les émissions proposées, nous nous livrerons, Nina et moi, à l'exercice de la chronique, en vous proposant chacune un regard sûr. Nous vous attendons nombreux.
À vendredi donc pour le direct et à bientôt dans Transversar.
À bientôt.